7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec le retour du coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Directeur général d'Afrique Search, vous êtes chaque mois en escale, c'est le cas de le dire, chez 7 milliards de voisins. Didier, la règle elle est simple, on vous soumet finalement un petit échantillon du meilleur de l'Afrique qui gagne. Des amis, voisins, voisines. Alors évidemment, je vous rappelle à vous qui nous écoutez les principes de l'émission une fois par mois. Vous êtes un jeune diplômé ou vous êtes un petit peu plus expérimenté. Vous avez un projet dans les services, dans l'agroalimentaire, dans la culture, dans le social aussi. Bref, vous êtes en train de monter votre entreprise ou au contraire, l'entreprise existe déjà depuis 2 ou 3 ans. Et d'ailleurs, généralement, c'est le mauvais moment. Au bout de 2-3 ans, vous le dites, Didier, on a un problème de croissance et on se sent bloqué. C'est l'occasion de dialoguer et de poser vos questions et de parler de vos difficultés en direct avec le coach Didier Akwété. Et si possible, évidemment, il faut envoyer un business plan, le fameux business plan, et qu'il soit le plus clair possible. Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés sur Facebook ou par mail à 7milliards@rfi.fr. C'est pas difficile, chez 7 milliards, on vous a donné un nom, les...
JPAG, évidemment, Emmanuel Bastide.
Jeune patron de l'Afrique qui gagne.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
On donne la parole au 33 1 84 22 71 71 à une voisine. Et combien nous manquons de femmes entrepreneurs? Enfin non, elles existent.
Et Dieu sait s'il y en a
beaucoup
bien
sûr,
sur le continent.
Mais on s'auto-censure, on n'a pas tellement envie de s'exprimer à l'antenne. Soyons discrets.
Je trouve aussi, même dans les conférences, pour avoir des femmes sur les panels, elles s'auto-censurent de moins en moins aujourd'hui, heureusement. Mais c'est vrai que...
Et c'est bien dommage.
Et c'est vraiment alors qu'elles ont tellement d'expériences à partager, de bonnes expériences en plus.
Eh bien, nous accueillons donc une jeune voisine, Adjara, 23 ans à Cotonou. Bonjour Adjara.
Bonjour.
Vous avez entendu les encouragements de Didier Akwété pour les femmes entrepreneurs sur le continent.
Oui. Bonjour Didier.
Bonjour Adjara.
Adjara, alors vous avez un master en informatique à l'École supérieure de gestion d'informatique et de sciences à Cotonou, donc vous êtes développeur. Et votre projet, c'est une plateforme en ligne qui a déjà démarré, qui s'appelle Mentora Club. Donc à partir du principe du mentorat, d'être mentor, expliquez-nous exactement en quoi ça consiste, puisque votre ambition est d'accompagner des startups. En quoi vous êtes différent d'un incubateur, par exemple?
Nous avons remarqué qu'aujourd'hui en Afrique, il y a de plus en plus de startups.
Oui.
Mais la réalité est que la majorité de ces startups échouent. Et en général, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de belles idées, mais c'est juste parce qu'ils ont mal exécuté celle-ci.
Oui.
Donc nous avons décidé de créer Mentora.club, qui est une plateforme qui connecte les jeunes entrepreneurs africains avec des mentors un peu partout dans le monde.
Donc par exemple, Didier Akwété, vous pourriez faire appel à ses services pour qu'il accompagne une start-up, par exemple, et qu'il fasse partie de votre plateforme, si j'ai bien compris.
Oui, justement. Nous prenons, par exemple, si on a un jeune entrepreneur qui a un projet... Côté finance, nous, on cherche un mentor expert qui a déjà fait la même chose et qui a déjà réussi. Donc, ce mentor partage avec le jeune entrepreneur son expérience, son réseau et puis lui donne des conseils.
Et donc, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons lancé la première version de Mentora en 2017. Nous avons actuellement plus de 1000 utilisateurs, dont 256 startups et puis une centaine de mentors.
Et ces 256 startups, où sont-elles situées?
Un peu partout en Afrique, nous en avons au Bénin, évidemment, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun.
Des startups qui démarrent donc une entreprise dans le numérique.
Oui, c'est ça.
Et 130 mentors de toute l'Afrique. Pour l'instant, vous ne gagnez pas d'argent avec ce système, puisque qui paye finalement?
Actuellement, personne ne paye. Le système est complètement gratuit.
Et à terme, comment vous allez gagner de l'argent?
Oui, justement. Nous avons prévu avoir un service de mentoring spécialisé pour ces entreprises après qu'ils auront atteint une certaine maturité. Mais nous sommes toujours en train d'étudier la possibilité d'adapter ce business model. C'était justement l'une de mes questions pour le coach Didier, pour savoir lequel des business models sera le mieux adapté pour mon produit.
Juste une question avant que Didier réponde, mais comment vous trouvez vos mentors?
Actuellement, pour recruter nos mentors, nous cherchons c'est plus dans notre réseau. C'est du bouche à oreille. Nous identifions des entrepreneurs qui ont déjà un certain succès et puis nous les parlons de Mentora.club. Et puis en général, ils acceptent de consacrer quelques heures à ces jeunes entrepreneurs.
Pour la gloire du continent.
Oui.
Donc, vous avez à l'heure actuelle un grand questionnement sur le business model de ce projet Mentora.club qui devrait proposer des services payants. Ensuite, une fois que ces startups ont émergé et qu'elles sont capables d'acheter vos services, c'est bien cela.
La question, c'est de savoir quel business model sera le mieux adapté pour ce type de produit. Vu que nous ne voulons pas forcément rendre le mentorat de base payant. Nous voulons le laisser ce service gratuit. Mais maintenant, d'après le coach, qu'est-ce que nous pouvons adapter comme business model pour un type de produit comme celui-ci?
Bon, un service premium. Bah, oui. C'est à vous de vous creuser la tête, hein, si j'ai bien compris, Didier Akwété. C'est à vous de travailler.
Bah, en fait, elle veut me faire travailler à l'œil, quoi. C'est ça, hein, genre. Bon, déjà, le principe du mentorat, c'est vrai que c'est très important pour des jeunes entrepreneurs. Et beaucoup d'entreprises échouent parce qu'on n'a pas su s'entourer des conseils qu'il faut pour développer son projet. C'est ce qu'on appelle la fameuse vallée de la mort. Une fois que le projet a commencé, et ben, quand on traverse cette vallée, qu'on n'a pas les appuis, les conseils qu'il faut, généralement, l'échec est au bout de la piste, est au bout de la vallée, mais c'est aussi une expérience. Pour revenir à votre question, le jeune entrepreneur qui effectivement bénéficie d'un premier niveau de mentoring gratuit peut tout à fait, selon l'évolution de son entreprise, comme vous, j'imagine vous l'envisagiez, passer à une étape 2 où le service devient payant avec des tickets, par exemple, qu'il peut acheter pour bénéficier de conseils plus spécifiques, plus élaborés, avec des mentors qui, du coup, aussi seraient peut-être un peu rémunérés, un peu, symboliquement. Mais ce que j'ai vu comme modèle généralement sur des plateformes d'appui aux startups...
Il faut bien préciser que là, tout est en ligne. Hein.
Oui, tout est en ligne, c'est ça. On ne se voit pas. Oui, donc on achète des tickets en ligne aussi et on n'a pas besoin de se voir. Ce que j'ai constaté généralement, c'est que lorsque des plateformes comme celle-là trouvent des projets intéressants, elles vont au-delà du mentoring. Et c'est un peu ce que j'allais vous suggérer, vous poser aussi indirectement comme question. Quels sont les autres services que vous envisagez à terme? Est-ce que, par exemple, la mobilisation de ressources fait partie des ambitions de la plateforme, c'est-à-dire aider les entrepreneurs à lever de l'argent, à faire venir des business angels sur la plateforme, à faire venir des petits fonds d'investissement ou des capitaux risqueurs sur la plateforme qui viennent détecter des porteurs de projets ou même des grosses entreprises qui sont dans les IT, qu'on va pas nommer, qui aujourd'hui aussi cherchent des startups qui ont des projets assez innovants que ces grands groupes peuvent ensuite incuber parce que ça fait partie de leur business. Et puis enfin, vous avez aussi la possibilité de prendre des participations dans certaines de ces startups dans lesquelles vous croyez, des participations qui ne sont pas payantes et en contrepartie du mentoring que vous leur donnez. Ces startups sont prêtes à vous céder un petit ticket dans le tour de table que vous pouvez valoriser après, que vous pouvez céder une fois que la société, la startup a démarré, qu'elle commence à gagner de l'argent, vous pouvez laisser...
Un mini fonds d'investissement.
À terme, leur société devient une société de participation, donc qui ensuite cède ses participations pour gagner de l'argent. Donc vous avez plusieurs modèles possibles. Tout dépend de ce que vous avez comme ambition pour la plateforme en dehors du mentoring, en fait.
Ok.
Adjara, qu'est-ce que vous pensez des conseils du coach?
Non, à long terme, nous allons avoir un réseau d'investisseurs pour que ces entrepreneurs, après le mentorat, qu'ils aient quand même du financement pour les entreprises. Parce que ce n'est pas juste le mentorat qui bloque en général les projets. Il y a aussi le côté financement. Les entrepreneurs ne savent pas forcément où trouver des investisseurs et puis tout ça, des ressources matérielles pour leur entreprise. Donc, nous envisageons aussi les mettre en relation avec des investisseurs, des incubateurs qui peuvent les aider un peu partout.
Et ce sera un service payant?
Oui, bon, pour le moment, nous n'avons pas encore décidé. Nous sommes en train de voir si nous devons laisser ce service aussi payant ou bien gratuit. C'est pas encore décidé.
Bon, vous savez, si votre plateforme n'est pas subventionnée, de toute façon, vous devrez, pour la faire survivre, trouver des activités payantes Et une start-up, oui, a priori, c'est un business qui est amené à se développer, même si sur 100, il y en a une ou deux qui survivent, ou même ou cinq. Potentiellement, vous pourriez être partie prenante à terme de ces start-up et gagner de l'argent à moyen terme. Et du coup, vous pouvez fédérer, oui, des investisseurs autour de votre plateforme.
Est-ce que cette plateforme Mentorat Club, à terme, n'est pas destinée à devenir elle-même un incubateur, dans le fond ?
Oui, c'est si vous avez les entrepreneurs en face, vous avez ceux qui peuvent les mentorer, vous avez ceux qui peuvent les financer, vous avez ceux qui peuvent nouer des partenariats avec ces startups, de facto, vous devenez un hub, en fait, de développement d'entreprise. Et donc, c'est comment construire des services autour de cette plateforme de développement d'entreprise qui, à mon avis, est intéressante. Et comme vous le disiez si bien, le mentoring n'est pas suffisant dans la vie d'un entrepreneur. Et vous êtes au Bénin, et moi-même, j'ai piloté un projet avec la Banque mondiale en appui à des entrepreneurs. Et effectivement, en dehors de la partie mentoring que nous avions donné à ces entrepreneurs, la Banque mondiale avait aussi apporté du financement avec l'État béninois pour les accompagner, avec un accompagnement administratif. Donc c'est cet écosystème qui permet.
Est-ce qu'avec une plateforme où il y a à l'heure actuelle 256 entrepreneurs, 130 mentors, hein, puisque c'est le résultat des courses depuis que Mentorat Club est ouvert, hein, c'est-à-dire depuis pas très longtemps, est-ce que Adjara peut intéresser des financements publics d'organisations internationales, par exemple, notamment en valorisant les pépites potentielles parmi ces 256 entrepreneurs?
Oui, ça dépend des projets.
Alors justement, j'allais vous poser la question, Adjara. Dans ces 256 entrepreneurs potentiels, hein, qui ne gagnent pas encore d'argent, mais est-ce qu'il y a réellement des pépites?
Oui, nous avons comme Irao qui est...
Irao, c'est un magazine en ligne, c'est un site internet, hein, d'une célèbre blogueuse, Mylène Flicka, que tout le monde connaît désormais au Bénin. Ouais, bon, mais en dehors des médias, par exemple, est-ce qu'il y a des pépites dans les startups?
Oui, nous avons Benagri, qui est un marché agricole et un système d'information en temps réel sur les marchés agricoles au Bénin. Nous avons Résumo CV, qui aide à faire un CV présentable en quelques minutes, en quelques secondes plutôt. Mm-hmm. Nous avons Class Action, qui est une plateforme puissante qui permet de rassembler toute une communauté autour d'une cause. Nous en avons assez quand même, qui ont des projets assez intéressants.
Oui, donc vous pouvez valoriser votre plateforme si vous avez autant de start-up à potentiel. Ne vous limitez surtout pas au mentoring, parce que là, vous avez réellement un potentiel de business que vous pouvez développer, en tout cas en termes d'accompagnement. Donc, faut surtout pas vous limiter au mentoring.
Adjara, votre objectif dans un an, par exemple?
Notre objectif dans un an, c'est déjà de multiplier le nombre d'utilisateurs que nous avons par 5, que ce soit de start-up ou de mentor. C'est déjà d'agrandir la plateforme. Et parmi ces start-up que nous accompagnons déjà, c'est de voir 50 d'entre elles quitter d'un niveau A à un niveau B. C'est-à-dire
les faire grandir, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire passer de par exemple, de 2 millions de chiffre d'affaires à 5 millions, c'est ça, ou de 10 millions à 50 millions. C'est un peu ça l'idée. Hein.
C'est
très bien.
Merci Adjara, on vous souhaite bonne chance. Vous avez 23 ans, vous êtes à Cotonou, et donc cette plateforme est en ligne. Hein. Ça s'appelle mentorat.club. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71, et puis également tous vos messages pour dialoguer en direct avec le coach Didier Akwete à 7milliards@rfi.fr, que vous soyez sur le point de monter une entreprise ou qu'elle existe déjà et qu'elle se trouve dans la vallée de la mort, comme dit Didier, au bout de 2 ou 3 ans d'existence, c'est-à-dire que vous fassiez face à de sérieuses difficultés, que vous ayez besoin d'être épaulé et du dialogue avec le coach. chaque année chez 7 milliards de voisins, clairvoyants. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du coach Didier Akouété. C'est lundi et c'est le rendez-vous avec les JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Alors évidemment, on accueille beaucoup de jeunes patrons en culotte courte, comme on dit, qui sont à leur tout début et ça n'est pas toujours simple. Vous nous appelez en tout cas, où que vous soyez sur le continent africain, au 33 1 84 22 71. 71, on donne la parole à Boursier, 33 ans, qui est à Libreville. Bonjour Boursier.
Bonjour Emmanuel et bonjour au coach.
Bonjour Boursier.
Boursier, bonjour. Vous êtes à Libreville, vous avez effectué toutes vos études au Gabon, vous êtes gabonais, vous avez un diplôme universitaire de technologie, option carrière juridique. Alors votre projet, c'est vraiment un projet social, hein. C'est pas avec ça que vous allez devenir l'homme le plus riche du Gabon. Mais c'est intéressant parce que c'est bien dans l'air du temps. Vous avez à l'heure actuelle d'ailleurs un emploi, hein. Vous travaillez, vous êtes responsable d'un service en nouvelles technologies à Libreville. Vous avez été membre d'une association de société civile qui travaille beaucoup sur la citoyenneté. Et c'est pour ça que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur, si j'ai bien compris, Boursier. Et votre projet, ça s'appelle 241 citoyens. Pourquoi 241?
Il faut préciser que en fait, 241, c'est l'indicatif du Gabon. Donc, j'ai utilisé le terme pour éviter de répéter dans le sens de citoyenneté gabonaise. Voilà, j'ai utilisé 241 citoyens.
Mmh. En quoi ça va consister?
C'est une plateforme qui vise deux objectifs. Le premier, c'est de renforcer la participation citoyenne, notamment par la définition de projets de développement à l'échelle locale. Et la deuxième partie, évidemment, c'est de faire la promotion de l'open gouvernement à l'échelle locale. Donc, le principe de redevabilité des élus locaux envers les citoyens.
C'est un vaste programme.
Effectivement, c'est un vaste programme, mais aujourd'hui, circonscrit à la mise en place d'une plateforme en ligne qui permette évidemment de faire le lien entre les citoyens et les élus locaux.
Oui, faire le lien entre les citoyens et les élus locaux, mais sur quel type de sujet concret?
Le projet est assez limité dans l'espace. On va utiliser, nous, une mairie peste et on va essayer d'avoir un groupe d'utilisateurs citoyens qui vont définir, ça peut être par exemple la mise en place d'arrêts bus, la réfection d'une fontaine publique. Oui. Que les citoyens proposent aux élus locaux et ces derniers reçoivent la proposition et l'analyse et voient les possibilités de pouvoir la réaliser. Il faut noter que dès lors qu'une proposition est émise sur la plateforme, les citoyens reçoivent une notification sur leur mail, leur messagerie traditionnelle, parce qu'il faut aussi préciser que la connexion Internet n'est pas très 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 aboutis également. Donc, ils reçoivent cette notification qui leur précise que votre proposition relative, par exemple, à la réfection d'une fontaine publique a été bien prise en compte par la collectivité et que, voilà, vous aurez une réponse dans les 24, 48 heures ou 72 heures qui suivent.
Mais ça veut dire qu'au départ, il y a une sorte d'appel d'offres. La mairie propose aux citoyens de s'exprimer sur tel ou tel sujet?
Il n'y a pas d'appel d'offres. Ce sont les citoyens qui proposent à leur collectivité, en fonction des
besoins,
des problèmes ou des besoins identifiés. Et ce sont les autorités qui reçoivent cette proposition et qui l'analysent en fonction peut-être des priorités des projets de développement pour leur collectivité.
Quelle est l'arrière-pensée derrière ce type de projet finalement?
En fait, c'est de pouvoir restaurer un petit peu la confiance des citoyens vers leurs élus locaux. Pour précision, très peu d'élus, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, ont ce souci de redevabilité envers les citoyens. C'était un premier pas, un objectif, donc c'est de restaurer cette confiance et de permettre finalement aux citoyens de savoir en nature, en temps réel, la redevabilité de l'élu. C'est-à-dire que les élus vont clairement...
Donc une plus grande transparence de la vie publique, dans le fond.
Dans le fond, oui, c'est ça. C'est, enfin, c'est
à l'échelle locale.
En général, mais à l'échelle locale, parce qu'il faut bien partir d'une étape et qu'au Gabon, il est difficile d'aller directement au sommet de l'État. Donc les mieux de commencer par le bas, comme on dit, était sûr que ça puisse prendre vers le haut et finalement, voilà, permettre aux citoyens et aux élus de trouver par la plateforme un moyen de communication, un moyen d'échange et un moyen de réalisation de des projets.
Alors on l'a dit, c'est vraiment un projet social. Néanmoins, il faudrait qu'il puisse se financer parce que là, au départ, vous avez mis quelques centaines d'euros pour démarrer une phase test dans une des mairies de Libreville. Je précise que je crois qu'il y a 6 mairies à Libreville, si je me trompe pas, c'est
oui,
ça?
6 mairies d'arrondissement, oui.
Oui. Puis bien sûr, une mairie centrale. C'est comme ça aussi à Port-Gentil où vous envisagez aussi de vous déployer. Quels sont là les grands questionnements que vous souhaitez formuler devant Didier Akwété?
Moi, j'ai deux grandes questions. En fait, c'est pas personnel, c'est aussi lié avec l'équipe que je travaille. La première question pour nous, ce serait de savoir comment, du point de vue social, sociologique, susciter l'intérêt du projet auprès des citoyens et auprès des élus locaux. Comment justifier la pertinence d'un tel projet auprès des citoyens et des élus locaux?
Oui.
Ce serait la première question. Ensuite, la deuxième, sinon la seconde question serait liée au fait que nous puissions finalement trouver les mécanismes de financement qui puissent maintenir la viabilité du projet dans le temps.
C'est-à-dire, en demandant aux élus locaux de participer financièrement, vous allez peut-être les inquiéter premier temps, je ne sais pas. Didier Akwété, en tout cas, c'est un projet qui est quand même bien dans des interrogations internationales aujourd'hui. La gouvernance locale est quelque chose dont on parle de plus en plus sur le continent africain. Les préoccupations sont extrêmement concrètes. Donc, intéresser les habitants dès qu'on parle de poubelles, de déchets, de bornes, fontaines, tout le monde s'y intéresse pour prendre les grands sujets de biens communs comme la gestion de l'eau, par exemple. Comment vous ressentez ce projet, Didier?
C'est un très bon projet parce que ce dont parle Boursier, nous, quand on était petits, on le faisait déjà au niveau des quartiers dans l'ensemble de nos pays. Aujourd'hui, par exemple, même au Rwanda, vous avez des initiatives de ce type où chaque mois, les citoyens se mobilisent pour mener des actions de proximité, de nettoyage, bref, d'aménagement de l'espace local. Donc, avec les technologies, et c'est aussi peut-être ça la différence aussi de l'approche de Boursier, on peut aujourd'hui savoir à tout moment quel type de projet peut mobiliser les citoyens, combien de citoyens peut mobiliser, et puis le faire savoir immédiatement. Donc, dans ce sens, je trouve que c'est une excellente initiative, que les citoyens se réapproprient leur cité, se réapproprient leur espace, et puis mettent aussi les élus devant leurs responsabilités. Donc, il y a deux dimensions. La responsabilité du citoyen et puis la responsabilité des élus. Alors, à la première question, je crois vraiment que la question des besoins immédiats des citoyens suscite toujours de la mobilisation. J'habite dans un quartier où il n'y a pas de nettoyage des ordures, je suis interpellé. J'habite dans un quartier où il n'y a pas d'eau courante, je suis interpellé. J'habite dans un quartier où il n'y a pas d'éclairage public et donc la criminalité, ça m'intéresse donc. Je pense que la nécessité, et c'est ce que j'ai bien compris dans le projet, d'initier, ou en tout cas que ceux qui sont sur la plateforme initient des projets qui interpellent directement le quotidien des citoyens, suscite forcément de l'intérêt.
Et fasse remonter les problèmes aussi.
C'est ça. Et en plus,
pour aider les élus locaux dans leur gouvernance.
Et aussi permet aux élus locaux de savoir que les citoyens savent bien ce qui se passe et sont en train de le relayer, pour que l'élu aussi se bouge un peu de temps à autre.
Alors bon, ça peut se passer déjà sur Twitter d'ailleurs, hein, mais de manière organisée, comme le prévoit Boursier.
La réaction de certains élus quand vous tweetez quelque chose, en disant « Tiens, il s'est passé telle chose dans cette ville », ils réagissent tout de suite en disant « Ah oui, c'est vrai, on a vu, on va... » Donc, c'est une excellente initiative. Donc, la question de la proximité, à mon avis, va définir l'intérêt et permettre aussi de mobiliser les citoyens autour de causes qui intéressent le plus grand nombre. Et de facto aussi les élus. Et les élus aussi, ça sera à mon avis par la portée sociale et médiatique des initiatives que vous allez les interpeller.
Alors maintenant, quelle mise en œuvre? Comment convaincre des deux côtés? Les élus locaux et les citoyens?
Les élus locaux, je suppose que si la question est sur la place publique, l'élu local forcément est interpellé, se dit « Tiens, ça va peut-être mal se passer si je ne réagis pas, j'ai intérêt à réagir ». Donc, il y a nécessité d'interpeller les élus publics, ou les élus en tout cas, autour de projets qui sont des projets sociaux, comme ceux que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, pour savoir si l'élu a une réponse concrète, a un financement autour de ce projet, et les citoyens, comment ils peuvent se mobiliser pour apporter aussi une contribution. Parce que directement la question, c'est le financement qui était la deuxième question. Alors, si par exemple il s'agit, allez, on va dire d'une question d'éclairage public, vous dites 241 citoyens, vous prenez une agglomération de Libreville, les citoyens se sentent interpellés par cette question d'éclairage public, vous pouvez tout à fait leur demander de contribuer aussi financièrement. Vous pouvez faire un fundraising à travers les citoyens qui ont envie de contribuer et puis aussi trouver des partenaires qui, par exemple, imaginez que ce soit un quartier où l'électricité n'y ait pas de branchement électrique, peut-être des panneaux solaires. Vous pouvez trouver des partenaires qui sont prêts à vous offrir des panneaux solaires ou des citoyens qui sont prêts à contribuer, je sais pas, 500 francs, 1000 francs CFA, quelque chose de symbolique, et puis à venir l'implémenter. Donc, l'action citoyenne, à mon avis, ne se limite plus aujourd'hui à la dénonciation ou simplement à la contribution symbolique. Il y a aussi, malheureusement, une contribution financière qu'on demande aux citoyens directement parce qu'on voit bien que l'État n'arrive plus à remplir toutes ses obligations sociales en termes de financement. Et au Gabon, on voit bien que l'État, depuis quelques années, souffre aussi. Bon, après, c'est une autre question, la gestion des ressources publiques. Mais on voit bien que l'État n'a plus les moyens d'apporter toutes ses réponses sociales, quoi.
Boursier.
Je voulais intervenir peut-être en précisant une phrase, c'est que dans cette dynamique de réception de ces projets par les élus locaux, en fait, derrière, il y a aussi une forme de challenge entre les collectivités locales les plus réceptives et les plus réactives aux propositions des citoyens.
En fait, vous allez créer une émulation et de la concurrence, c'est-à-dire celles qui vont tout de suite rentrer dans le projet, les autres vont sentir une forme de pression, c'est ça, si elles n'adhèrent pas.
Et donc, s'il y a une émulation comme celle-ci, il y a certains élus locaux qui se diront peut-être « Ah, il est peut-être préférable pour nous d'être ouvert à ce genre d'initiative. »
Et de faire partie de 241 citoyens, voilà. Donc, la plateforme.
Voilà, c'est vraiment l'objectif.
C'est une très bonne idée. Enfin, ce que je voyais derrière votre plateforme, dans la manière dont le projet est structuré, c'est que les citoyens eux-mêmes s'engagent, en quelque sorte, s'interconnectent entre eux, et se disent, nous allons ensemble réaliser ce projet. Et je trouvais que c'était génial. Du coup, autour d'un projet, vous pouvez retrouver 200, 300 personnes qui disent, tiens, ce projet m'intéresse, on a envie de le faire ensemble. Donc, je trouvais qu'il y avait une dynamique collective à travers les réseaux sociaux qui était une belle innovation que vous apportiez et qui peut permettre justement de mobiliser aussi des ressources.
Ouais. Boursier, vous vous êtes inspiré d'initiatives qui existent déjà en Afrique anglophone, par exemple, ou pas du tout?
Non, ce qu'il faut préciser, c'est que je me suis vraiment intéressé aux initiatives un peu citoyennes qui existent beaucoup en France et certaines qui existent au Sénégal. Et je me suis dit, en fait, pour faire la fusion de ce que j'avais appris, que j'avais constaté par rapport aux réalités de mon pays sur l'accès aux services de base, à Internet, etc. Je me suis dit qu'il fallait, entre guillemets, réadapter ce que j'ai proposé parce que, pour moi, le projet, il va suivre son étape de développement, d'évolution. Mais pour moi, ce serait plutôt dans les retours expérience utilisateurs entre les élus et les citoyens. Sachant bien que, d'une part, il y a aussi un travail d'éducation, assez une technologie auprès des élus à faire. Et un travail aussi pédagogique au niveau des citoyens à dire que c'est pas que de la dénonciation, il faut participer et c'est en participant qu'on change les choses.
Alors dans un an, vous vous voyez comment avec 241 citoyens, la plateforme?
Alors là, je vais être vraiment, dans un an...
Bon, là vous lancez la phase test bientôt, hein, dans un arrondissement de Libreville.
Voilà, dans un an, ce serait pour moi d'avoir déjà le premier bilan de la phase test, bilan utilisateur et élus locaux, et dans un an, ce serait certainement de déployer toute la communication autour du projet. Ouais.
Le nouveau booster de la vie locale au Gabon, hein, 241 citoyens.
Voilà, donc c'est très bien.
La dynamique en fait.
Non, et puis dans les villes où des initiatives citoyennes de ce type sont nées, vous avez généralement des opérateurs de téléphonie mobile qui viennent en sponsoring, des banques qui viennent en sponsoring, parce que pour elles aussi, c'est une façon de montrer qu'elles sont dans la gouvernance locale, qu'elles sont dans la responsabilité sociétale. Et donc, vous pouvez, en termes de financement aussi, solliciter ce type de partenaires qui, aujourd'hui, participent activement à ce genre d'initiative.
Merci. En tout cas, Boursier, vous nous tenez au courant. Ça nous semble extrêmement intéressant, même si il s'agit pas réellement d'un projet business, mais vous le voyez bien, Didier, les jeunes ont de plus en plus d'idées, de plus en plus d'ailleurs proches des attentes fines des consommateurs, des citoyens et des usagers, très important aussi sur le continent africain.
Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la plupart des applications qui sont développées par les jeunes africains et les start-upers, c'est vraiment qu'ils sont proches des besoins des citoyens, c'est ça la force de ces applications. Mais donc c'est vraiment bien.
Très bonne journée à vous à Libreville, Boursier. À très bientôt, bonne chance.
Merci.
Bonne chance pour la phase test.
Merci.
Merci.
Merci Boursier.
Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Et puis vous pouvez aussi nous poster un message sur notre boîte mail pour nous parler de votre projet et passer dans la prochaine émission avec Didier à côté. 7 milliards@rfi.fr. Un troisième projet dans quelques instants.
My sweat so hard, I know my daddy feel the shit. I turn up every time I walk up in this bitch. Don't want no petty stains, I need the biggest lick. I'm smoking on the bestest tree, I'm always with the baddest bitch. My squad so hard, I know these niggas feel the shit. It's me, KDD, Bruce, these niggas kill the shit. I walk up in the club, these bitches throwing fists. The realest niggas fuck with me, the fake ain't really feel the shit. I see it in their eyes, it's out of jealousy. It's killers with me, please don't think about harming me. This thought just beat my watch and now she all on me. Told the team it's time to eat, I got it all on me. And all I ever do is count bands. Might fuck around and pull up in that band. And all I ever do is spoil my daughter. And all I wanna do is count ones. Nigga, you jealous. Nigga, I already know a nigga talking about so come go. Nigga, you jealous. Nigga, I'm already know you ain't talking about none come through. A little bitch, you jealous. Baby, I'm already know you ain't talking about none come through. Nigga, you jealous. Nigga, I'm already know you ain't talking about none come through. Nigga, you fake. I'm already knowing. Talking on the internet, nigga, come do it. Just jealous. Say you talking about something. Put your bands up, nigga, come through. Talking about money. Got a jab on me, in a bag on me, and it's loaded. Talking about great, yeah, I know you heard about us. You ain't fucking with your homie, we straight. Broke on a case, broke at charges. Nigga go hard, gotta go hard. The boy no flex, nigga you flogging. Nigga hits, LA Dodgers, gotta get cake. Smoking on dope with a top up view with a lake. Heard he hate, so I fuck this bitch. Should've seen that look on his face. Nigga be quiet, don't you talk about guns. Nigga, you don't even pop outside. And I know you tricking on them hoes, and you don't put on for your guys. Nigga, you sick. J-Mo from the band, got the whole clique looking like stars. Nigga, we the shit. I'm already knowing. Tell them how something come to us. And all I ever do is count bands. Might fuck around and pull up in that band. And all I ever do is spoil my daughter. And all I wanna do is count ones. Nigga, you jealous. Nigga, I already know it. Nigga, tell them how something come to us. Nigga, you jealous. Nigga, I'm already knowing. You ain't talking about nothing come to us.
Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Lomé, au Togo. Bonjour Aftal.
Bonjour Emmanuel, comment vous allez?
Très bien, je redonne le numéro de téléphone de notre standard pour les voisins, 33 1 84 22 71. 71, comme ça, vous aussi, voisins, vous êtes entrepreneurs, voisines, surtout les entrepreneuses, on les attend, on a envie de leur donner la parole et surtout de dialoguer avec le coach pour avoir des conseils. Alors Aftal, vous, je dirais que votre entreprise, c'est pas une grande originalité. Vous avez 27 ans, vous êtes diplômé en droit privé à l'université de Lomé, vous avez travaillé en agence de communication et vous avez créé il y a 3 ans une société de communication digitale. Sauf qu'en 2014, votre société Hashtag, vous étiez parmi les premiers sur la place à Lomé, non ?
Oui, en effet.
Et vous proposiez donc des créations de sites web, de la gestion de e-réputation, donc de la réputation sur Internet, de développement de pages web sur les réseaux sociaux, enfin, toutes sortes de choses qui sont devenues indispensables maintenant pour des entreprises, voire pour des particuliers, des politiques notamment, de la rédaction de stratégies de communication. Je crois que vous avez aussi un volet édition qui est en cours de développement.
En effet, oui, depuis 2 mois déjà, nous avons lancé le pôle édition de la société pour tâter un peu le terrain de ce côté également.
Et qui consiste en quoi ?
Qui consiste essentiellement à passer du volet digital au volet physique pour les producteurs de contenu. Essentiellement, nous avons remarqué que des blogueurs qui écrivent ont assez de matière qu'on peut traduire en livres physiques. Et donc, le challenge serait de les aider, de les accompagner à avoir un document physique disponible dans les librairies.
L'édition africaine, effectivement, maintenant part du digital pour arriver au papier. C'est un phénomène qui est très intéressant. Aftal, votre problème, c'est que vous avez lancé cette entreprise. Au début, ça marchait très bien. Je crois que maintenant, il y a 4 personnes dans l'équipe. Hein. Et puis, la concurrence est arrivée. Et vous peinez très clairement. Alors, quelles sont aujourd'hui vos difficultés et les questions au coach ?
Alors, ma première question au coach, c'est comment repenser le marché concurrentiel aujourd'hui ? C'est-à-dire que pour une société qui, à une époque, était pratiquement, sinon quasiment seule, où il n'y avait pas vraiment de concurrence, et en 2 ans, le marché est plus ou moins saturé, comment est-ce qu'il faut repenser la concurrence sur un marché de plus en plus compétitif ?
Bonjour Aftal, c'est par l'innovation. Qu'est-ce que vous imaginez comme innovation, en fait?
Alors, peut-être actuellement, aider, accompagner les entreprises à avoir leur propre plateforme, à savoir beaucoup plus sur le mobile, parce que actuellement beaucoup de sociétés ont des sites web, c'est vrai, mais il y en a également qui veulent opérer sur le mobile, et je pense que c'est peut-être une manière de sortir du lot si possible.
C'est une approche. Alors, si vous voulez, vous êtes sur un marché évidemment qui, bon, je vais pas dire saturé, mais où il y a beaucoup d'acteurs avec des prix de temps à autre défiant toute concurrence. On ne sait même pas comment les gens font pour vivre de certaines de ces prestations. Et à mon avis, tout ce qui va permettre à vos clients, en dehors du site web, de mieux cibler leur public, va devenir un service, ce qu'on appelle à valeur ajoutée. Aujourd'hui, quand vous allez sur un site internet, vous savez, on utilise beaucoup d'algorithmes, ou ce qu'on appelle le big data, si vous arrivez à collecter des données, à structurer des données pour vos clients, pour que leur plateforme web devienne des vraies plateformes de vente, entre guillemets, c'est-à-dire de proximité avec leurs vrais clients, là, vous pouvez peut-être commencer à faire passer un message différent. Parce que faire un site web aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Bon, c'est de moins en moins cher. Je pense que pour 300 000 francs CFA aujourd'hui, on fait des sites web. Donc, c'est simplement la vitrine. Mais il faut arriver à montrer aux clients que le site web, c'est plus qu'une vitrine. C'est vraiment un objet, un support de vente, un support de proximité avec ses clients, un support d'analyse de son marché pour aller au-delà de la vitrine. Donc, si vous arrivez peut-être en dehors de l'idée que vous avez donnée de dire, bon, application mobile, mais vous allez avoir plein qui vont le faire aussi.
Aftal reste finalement dans le service technique.
Il faut qu'il y ait au-delà du service technique, sauf si vous arrivez à trouver des innovations qui font que le site web ou l'application que vous avez développée pour le client permet une interactivité avec les clients par une technologie donnée. Là, vous commencez différent. Donc, on rentre vraiment en marketing dans ce qu'on appelle la stratégie de différenciation. Et pour l'instant, l'application web juste sur un portable n'est pas, à mon avis, assez novateur pour survivre sur votre marché.
Aftal, vous avez une deuxième question. Vous avez décidé de changer de statut dans votre entreprise, hein?
Oui, c'est vrai que depuis l'année passée, on a diversifié les activités et donc pour pouvoir travailler ou en tout cas être prestataire de certaines structures, il fallait changer de statut. Donc depuis l'année passée, nous sommes maintenant en société à responsabilité limitée. Et
donc vous êtes passé d'une entreprise individuelle à une entreprise à responsabilité limitée pour gagner également la confiance des clients.
La confiance des clients, voilà, oui. Et donc, ma seconde question au coach, c'est de savoir comment trouver le juste équilibre entre motiver suffisamment son équipe. Je parle surtout en matière d'intéressement financier et être en règle avec l'administration.
Comme vous avez changé de statut, vous avez plus de contraintes fiscales et administratives, c'est ça?
Effectivement, le changement de statut exige beaucoup plus de...
Oui, et vous ne faites pas assez de chiffre d'affaires.
Voilà, et lorsqu'il n'y a pas assez de chiffre d'affaires, comment est-ce que on trouve le juste équilibre entre intéresser son équipe et puis ne pas attirer le regard de l'État?
En passant en direct sur RFI, il n'y a pas de problème. Didier Acouetté. Dimensionnement de l'entreprise, du statut, pourquoi, à votre avis, ça pourrait être lié avec la motivation des équipes? Est-ce que vous comprenez la question d'Aftal?
Je pense qu'il y a plusieurs questions derrière la question d'Aftal, mais de ce que je comprends. Déjà, quand vous changez de statut d'entrepreneur individuel à une société, entre guillemets, de capitaux, c'est-à-dire une SARL, vous avez la possibilité de faire venir des associés. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait ouvrir le capital de la SARL et permettre à vos employés aussi de devenir associés, donc d'avoir des petites parts dans la société et donc de gagner aussi leur fidélité, et aussi ils regarderont de plus près la gestion, évidemment. Donc vous devenez tous un peu responsables, quoi, de l'entreprise. Donc ça vous donne cette facilité, y compris de faire venir des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le gros changement pour vous. Et donc aussi, forcément, vous êtes beaucoup plus responsable, plus comptable devant l'administration fiscale, l'administration sociale. Mais clairement, c'est un statut qui vous donne un peu plus de flexibilité, plus de possibilités au niveau de vos partenaires potentiels et de vos actionnaires, mais aussi ou de vos associés, mais aussi de l'État. Et après, fiscalement, je pense qu'au Togo, il doit avoir un minimum forfaitaire, comme dans beaucoup de pays, quel que soit le chiffre d'affaires que vous réalisez et que vous devez verser à l'État. Mais généralement, ce que vous payez à l'État, c'est un pourcentage du bénéfice que vous faites en dehors du forfait obligatoire, je suppose. Mais pour revenir aussi à votre première question concernant la saturation du marché, n'oubliez pas que vous avez aussi des grandes agences de communication qui sont sur le marché, qui peuvent devenir vos partenaires et qui peuvent aussi vous donner des marchés de sous-traitance où vous devenez leur partenaire web dans tous les projets qu'ils développent pour leurs gros clients, qu'ils développent pour leurs clients internationaux. Et comme vous le savez, même quand vous allez aujourd'hui dans des pays comme l'Inde ou aux États-Unis ou au Maroc ou au Kenya, vous avez beaucoup de sociétés internationales qui sous-traitent toutes leurs prestations IT, leurs prestations digitales à des sociétés basées dans ces pays-là, y compris en Afrique. Donc, je voulais peut-être aussi vous dire qu'il faut sortir peut-être du marché purement local, qui est peut-être petit aussi avec beaucoup trop d'acteurs pour viser un marché plus large avec des coûts défiant toute concurrence quand vous adressez à des clients qui ne sont pas au Togo, qui sont à l'international.
Pour résumer, l'innovation, hein, on est bien d'accord.
La différenciation,
sortir peut-être du marché local.
Trouver des partenaires, des grandes agences qui peuvent sous-traiter leurs prestations IT et digitales avec votre agence. Et aussi demander à certaines grandes sociétés de délocaliser. Vous savez, moi, je reçois par exemple des mailings tous les jours de sociétés basées en Inde qui disent « Ah, on vous fait votre site web pour 500 $, pour 1000 $. » Bon, ils sont basés à Bangalore ou. Mais bref, service à valeur ajoutée clairement sur le marché local.
Et sur la motivation des équipes,
participation au capital avec des primes sur les projets. Ça intéresse tout le monde. Ouais. Quand tout le monde trouve son biscuit dans l'affaire, il est un peu plus motivé.
Aftal, très bonne journée à Lomé et bon vent donc pour cette société hashtag de communication digitale dans un monde ô combien concurrentiel aujourd'hui. Je crois qu'on l'a bien compris avec les conseils de Didier Akwete.
Il y a aussi des marchés de niche, par exemple le marché de réputation, gestion de la réputation sur les sites web. Donc à un moment donné, il faut aller aussi sur des marchés de niche où il n'y a pas beaucoup d'acteurs quand on sent qu'un marché commence à saturer.
Il faut avoir une bonne connaissance du terrain et où la concurrence internationale ne peut pas aller, par exemple.
Par exemple, ou en termes de coûts, ne peut pas battre votre structure de coûts.
Les voisins, les voisines, je vous rappelle notre adresse pour nous écrire, pour passer dans l'émission le mois prochain, 7milliards@rfi.fr pour dialoguer avec le coach, quel que soit le stade de création de votre entreprise. Dans quelques instants, les conseils du coach, on reparle de plan de financement. C'est le nerf de la guerre, quand même.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier Akwete.
Il y a une armée derrière vous pour les conseils du coach Didier Akwete. Le mois dernier, on avait parlé de ce fameux plan de financement. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les conseils du coach sur la page 7 milliards de voisins, sur le site rfi.fr. On avait parlé de ressources longues pour des besoins longs, en tout cas d'adapter, c'est bien cela ?
Oui, effectivement. On avait passé un petit moment sur justement la construction du plan de financement.
Vous nous aviez donné un exemple d'ailleurs.
Et vous pouvez pas acheter un camion pour livrer vos produits que vous allez amortir peut-être sur 3 ou 5 ans avec un découvert bancaire ou un crédit bancaire sur 6 mois. Donc ça veut dire que vous êtes en déséquilibre entre les remboursements que vous allez faire qui sont beaucoup trop lourds par rapport à la durée de votre financement. Donc c'est vraiment adapter son financement à son besoin. Extrêmement important.
Ça, c'est ce qu'on a dit le mois dernier.
Tout à fait.
Aujourd'hui, le plan de financement, il y a d'autres conseils essentiels à retenir.
Alors, il y a beaucoup d'autres éléments. Aujourd'hui, je vais peut-être simplement parler de ce qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. Quand on construit un business plan, ce qui intéresse d'abord l'entrepreneur aussi et le financier, c'est de s'assurer que le business est rentable. Il n'est pas obligé d'être rentable la première année. C'est pour ça, généralement, qu'on demande un plan sur au moins 3 ans, parce que les premières années sont un peu difficiles, on va accuser des pertes, et normalement, quand on va commencer à sortir de la vallée de la mort, on commence à trouver un petit peu de... en tout cas, on équilibre au moins le modèle financier où on commence à gagner un peu d'argent. Donc, c'est très important d'avoir ce compte de résultat prévisionnel. Et donc, dans ce compte de résultat prévisionnel, il y a vos recettes prévisionnelles, donc votre chiffre d'affaires prévisionnel et vos charges prévisionnelles, d'où vous tirez un résultat d'exploitation qui permet de voir si l'activité est au minimum rentable. Et c'est pas choquant une activité la première année qui ne gagne pas d'argent, au contraire même, généralement on se dit, tiens, c'est réaliste. Quand on a vu beaucoup de plans d'affaires, on a vu beaucoup de projets, on dit, c'est réaliste de ne pas gagner d'argent la première année.
Le feu d'artifice la première année, ça ne bluffe pas les banquiers.
Non, et généralement, nous commettons tous la même erreur, y compris nous-mêmes. Comme je dis souvent, il y a 22 ans, à FreakSearch, on pensait qu'on ait l'argent la première année, ce qui n'a pas été le cas. Bon, on était jeunes, comme nos JPAC. Donc, quand on construit son compte de résultat prévisionnel, c'est extrêmement important d'arriver à imaginer le chiffre d'affaires prévisionnel, qui n'est souvent pas facile, et en fait c'est un peu le point sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu, c'est que quand on construit le business plan, c'est toujours un peu difficile d'imaginer les ventes que nous allons pouvoir faire. Autant les charges sont fixes, c'est-à-dire vous, les bureaux vous allez les payer, les employés qui viennent y sont payés, les taxes vous allez les payer, les transports, autant le chiffre d'affaires est généralement difficile à prévoir. C'est pour ça qu'on dit prévisionnel, et donc je retourne à ma fameuse étude de marché, c'est-à-dire qu'est-ce que l'étude de marché a révélé comme potentiel de marché, qu'est-ce que les concurrents qui font des produits un peu proches réalisent aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires avec un prix de vente équivalent, etc. C'est quoi les tendances de consommation du marché pour arriver à calibrer un petit peu le chiffre d'affaires prévisionnel qui est l'élément important pour bâtir le compte de résultats prévisionnels et donc donner un peu de visibilité et de lisibilité aux partenaires financiers, y compris à vous-même, en termes de ressources à mobiliser. Parce que tout ça est extrêmement lié à vos besoins de financement.
Qu'on va demander aux banquiers.
Bien sûr, ou à ce que vous-même vous allez devoir mettre sur la table, les ressources propres. Ce compte de résultats prévisionnels est extrêmement important quand vous construisez votre plan d'affaires pour donner un peu de visibilité, de lisibilité au projet en termes de perspective de rentabilité. Donc, chiffre d'affaires prévisionnel, charges d'exploitation prévisionnelles, impôts et taxes prévisionnelles, charges financières prévisionnelles, amortissement prévisionnel, et puis parfois, certaines charges exceptionnelles qui sont parfois un peu difficiles à évaluer parce qu'elles sont exceptionnelles par principe. Par exemple, lorsque un client va vous planter, ça devient une charge exceptionnelle, mais vous ne pouvez pas deviner qu'un client va vous planter.
Ou un matériel qui casse et qu'il faut remplacer, qui n'est pas prévu.
Par exemple, ou un accident, ouais, parce que vous n'êtes pas assuré.
On voit bien que dans ce fameux business plan, tout doit être extrêmement lié, notamment l'étude de marché, pour mieux prévoir les ventes prévisionnelles, par exemple. Tout ça doit être très cohérent, doit se suivre. Il y a une logique dans ce fameux business plan et c'est ça qui rassure celui qui va financer.
Exactement. C'est cette logique qu'on ne voit pas souvent dans les plans d'affaires. Et effectivement,
c'est pour ça que vous faites la tête quand vous lisez les business plans dans l'émission.
Parce qu'il n'y a pas de cohérence de temps à autre. Et donc, notre rubrique a pour vocation d'éclairer
les JPAG, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Merci à vous, Didier Acoté. Vous revenez chez 7 milliards le mois prochain?
Évidemment.
Et d'ici là, les voisins, les voisines, vous avancez sur vos projets. Vous nous écrivez surtout à 7milliards@rfi.fr. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine ou nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. On se dit à demain. Merci à vous, le coach.